Je ne vois plus congolais à l'aéron.
Bonsoir, un mois après leur nomination par ordonnance présidentielle, les nouveaux magistrats se plaignent d'attendre des affectations qui ne suivent toujours pas et se disent abandonnés à leur triste sort. Comment analyser la plainte des nouveaux magistrats? Trois invités seront avec nous dans cette émission. Biswas Kipenge, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme et analyste politique. Biswas Kipenge, bonsoir.
Bonsoir.
Jean Ouboulou, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Également Edmond Issofa, vice-président du syndicat autonome des magistrats du Congo Sinamac, il sera avec nous dans un tout petit moment également. Comme vous le savez, chers auditeurs, il est possible de nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Japs Kipoka de Moba Okatanga qui dit si les fonctionnaires en mutation doivent se débrouiller pour leur transport et logement, qu'en serait-il pour les nouveaux magistrats? Claude Kikoso de Matadi au Bas-Congo, ces nouveaux magistrats ont raison. En principe, le gouvernement devrait au préalable régler tous les problèmes liés à leur affectation avant même de procéder à leur nomination, sachant que certains d'entre eux sont venus des provinces et n'ont pas de résidence à Kinshasa. Merci de nous suivre partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Un mois après leur nomination par ordonnance présidentielle, les nouveaux magistrats se plaignent d'attendre des affectations qui ne suivent toujours pas. Ils se disent abandonnés à leur triste sort. Ces substituts de procureurs de la République interpellent le gouvernement et le chef de l'État pour leur affectation. Parmi eux, une dame a requis l'anonymat. On l'écoute au micro de Jack Ngoy.
On arrive au conseil supérieur de la magistrature, ils nous disent que le gouvernement est allé à nous désengager. Ils ont établi les listes des affectations et on pense que le gouvernement s'occupe de bloquer les trains. Alors nous sommes abandonnés pour notre triste sort. Nous sommes venus de l'intérieur. Nous savons plus que faire. On est là, nous demandons au gouvernement qu'il puisse peut-être changer à notre affaire les affectations. Et chacun peut se débrouiller comme on s'est débrouillé pour venir sur le terrain. Parce que nous sommes venus, on a promis de nous remettre l'argent des billets. Ils n'ont pas remis jusqu'à aujourd'hui. On continue à attendre. Nous souffrons. En tout cas, nous sommes sur la plus difficile de l'État, qui nous vient d'un être, qui va suivre pour nous, qui va nous promouvoir. Nous sommes des jeunes magistrats et magistrats de rectine. On ne peut pas faire la rectine quand on n'est pas bien traité. Il faudrait qu'on voie notre condition de vie et comment nous allons appliquer la tolérance zéro, parce que sans moyen, on ne saura pas appliquer la tolérance zéro.
Voilà, la réalisation nous signale que Jean Ouboulou, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas joignable. S'il nous suit en ce moment, qu'il nous permette simplement de le faire participer à cette émission, car il a donné son accord de principe. Mais nous recevons dans ce studio Edmond Issofa, vous êtes vice-président du syndicat autonome des magistrats du Congo, Sinamac. Comment vous analysez, comment vous recevez cette plainte des nouveaux magistrats?
Merci d'abord pour l'invitation que vous avez daigné bien nous accorder. La réaction du Sinamac, c'est que c'était prévisible. Prévisible dans la mesure où, en son temps, nous avons estimé que les choses n'ont pas été correctement préparées. On a agi dans une certaine précipitation, de sorte que les prescrits, même des statuts de magistrats, n'ont pas été respectés. Et on croyait que le Sinamac, comme d'habitude, ne faisait qu'à sa tête. Mais on s'est finalement rendu compte que il y avait une certaine impréparation dans l'organisation du concours. Nous avons suivi avec nous les magistrats qui se plaint par rapport aux moyens dépensés, puisqu'il avait été promis de les désintéresser, mais à ce jour, rien n'a été fait. Donc voilà en fait, donc pour nous, c'est déprévisible.
Et aujourd'hui, à quoi peuvent-ils s'en tenir? Parce qu'ils ont reçu des promesses du chef de l'État, du procureur général de la République. Qu'est-ce qu'on en dit finalement?
Donc, je crois que ce qu'il faudrait faire, puisque c'est déjà fait, c'est réfléchir ensemble, voir comment est-ce qu'il faudrait corriger. Nous l'avons dit, que les concours, c'était une bonne chose, puisque nous, même les Sinamac, nous avons eu à dire que l'effectif était insuffisant, donc l'effectif des magistrats, et que la couverture judiciaire posait problème. Mais nous avons pensé également qu'on pouvait, on devait agir conformément au texte, c'est-à-dire laisser le secrétariat permanent, puisque c'est au secrétariat permanent qu'appartient l'initiative directement, les préparer, voir comment accueillir le nouveau, puisqu'il se pose aujourd'hui véritablement un problème d'infrastructure. Il se pose un problème des conditions sociales et professionnelles des magistrats. Aujourd'hui, les nouveaux sont là, bienvenus, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les accueillir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réellement utiliser ces magistrats dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice? Alors, aujourd'hui, je crois que les promesses ont été faites, il est temps qu'on les respecte. Il est temps qu'on mette réellement des moyens à la disposition du magistrat, des magistrats, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse un distinguo entre les nouveaux et les anciens, mais ce sont tous aujourd'hui magistrats. Ils ont été nommés, ils sont tous magistrats, et nous tous, on doit réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les conditions sociales et les conditions professionnelles.
Il y a cet auditeur, Bonnie Kitumba de Butembo Nord Kivu, qui utilise une image un peu forte et qui dit qui veut rendre son chien méchant, lui prive la nourriture, puis l'enferme dans une pièce sombre avant de le lâcher dans la concession. N'est-ce pas là la politique du gouvernement pour pousser les nouveaux magistrats à pratiquer la justice à deux vitesses? C'est bon, ils sont pas.
Bon, oui, effectivement, c'est très fort. Mais j'estime que les conditions de travail et les conditions sociales sont tellement importantes qu'il faudrait mettre les magistrats à l'abri de certains besoins élémentaires. Puisque si aujourd'hui, les magistrats doivent réfléchir comment ils doivent se loger, comment ils doivent instruire, puisque pour instruire, il n'y a pas de frais de fonctionnement, ils doivent s'acheter des papiers et des bics, ça pose déjà problème.
Biswas Kitenge, vous êtes vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et FIDH et président du groupe Locus, une ONG de défense des droits de l'homme. Comment vous analysez ces plaintes de ces nouveaux magistrats?
D'abord, il faudrait dire que la plainte de nouveaux magistrats s'inscrit dans les cadres de l'interpellation du gouvernement congolais à prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une question fondamentale qui est celle de la réforme du secteur de la justice. Et à ce sujet, moi je pense qu'il y a trois choses importantes qu'il faudrait prendre en compte. La première chose, c'est la réforme du secteur de justice et la manière dont le gouvernement s'attaque à cette question en privilégiant un de ses axes qui est le recrutement de nouveaux magistrats. Et sur ce point, on ne pourrait pas condamner le gouvernement congolais d'avoir fait ça. C'était une bonne chose, ça a été réclamé, le besoin a été ressenti. Mais au-delà de cette question-là, il y a une autre question fondamentale, ça c'est le deuxième point, c'est la question de la planification des politiques du gouvernement. Est-ce que le besoin s'est fait sentir de recruter le magistrat? Est-ce qu'il fallait-il recruter les nombres commencés par 1000 ou aller jusqu'à 2000 comme ça a été dit? Alors qu'on sait qu'on a des problèmes sérieux de mobilisation des ressources financières, logistiques et même politiques. C'est là que véritablement on sent que les intentions, parfois certaines actions, se heurtent à un problème sérieux qui est celui de la planification, puisqu'on ne peut pas prendre une décision lorsqu'on sait qu'on n'a pas tous les moyens de mener cette action jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, le gouvernement se retrouve devant cette situation de la planification. Et en fin de compte, troisième chose, c'est de dire que le gouvernement devrait faire une politique de ses moyens. La politique de ces moyens, c'est de dire quoi, dans un premier temps, on fait un diagnostic de la situation, on se rend compte qu'il faut recruter de nouveaux magistrats, mais on doit se dire quels sont les moyens dont on dispose pour mener une telle action, pour que ça ne s'arrête pas en cours de route, que ça arrive jusqu'au bout. Puisque je pense que c'est de cette manière qu'on peut gouverner vraiment la République, qu'on peut mener des actions qui puissent porter. Aujourd'hui, on dirait que le gouvernement est un peu de passer par la situation, le gouvernement qui avait la bonne intention, qui a mené cette action, mais qui n'a pas aujourd'hui les moyens de les achever. Et du coup, ça risque de créer une sorte de tension sociale, ça risque de créer, de donner une impression que parfois on fait des actions pour juste satisfaire une certaine opinion. Alors voilà, à mon niveau, donc il faudrait que le gouvernement ajuste sa politique. Et pour être aussi beaucoup plus concret concernant la question de cette plainte, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement essaie d'analyser pour voir comment répondre à ça.
Biswaski Tengue, vous parlez de la réforme du secteur de la justice, hein, qui est une bonne chose, qui a été amorcée par le gouvernement avec le recrutement de ces magistrats. Mais peut-on avoir observé tout ce qui se passe, dire que cette réforme est mal partie?
Je dirais que la réforme est une chose, est un impératif global. C'est-à-dire un impératif qui demande beaucoup plus de moyens. La question de recrutement de nouveaux magistrats n'est qu'un des aspects de la réforme du secteur judiciaire. On recrute, mais il faut avoir le moyen de payer, il faut avoir le moyen de mettre le magistrat dans les meilleures conditions, il faut avoir la capacité de suivre. Alors, je pense que la réforme a plusieurs aspects, a plusieurs exigences, mais tout dépend de la manière dont le gouvernement essaie de s'y atteler. Je pense que pour les cas concrets, le gouvernement, j'estime que le diagnostic n'a pas été, disons, fondamental, global, mais il y a eu aussi des solutions qui étaient partielles. Mais je pense qu'il ne faut pas totalement condamner ce qui a paru comme une bonne intention, mais il faut l'aider actuellement à avoir le moyen de corriger ce qui a corrigé, mais aussi d'avoir le courage de parfaire l'entreprise qui a été déjà engagée. Mais je pense qu'il faudrait vraiment une étude, comme je disais, de programmation, de planification sérieuse dans ce domaine de la réforme du secteur de la justice, qui est un domaine, je dirais, exigeant, qui a plusieurs aspects, et le gouvernement doit savoir à chaque fois comment résoudre le problème d'une façon durable et d'une façon efficace.
Voilà, la réalisation me signale toujours que Jean Ouboulou, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, est injoignable. Nous rappelons qu'il a donné son accord de principe pour participer à cette émission. C'est dommage qu'il ne soit pas joignable. Mais la réalisation me signale également que nous avons en ligne Maître Osvald Bassounimbata, chercheur en droit international pénal et analyste. Maître Bassounimbata, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes juriste également, analyste. Comment vous percevez cette plainte des magistrats? Le juge Issoufa a parlé, a dit que c'était prévisible. Biswaski Tengue a relevé trois aspects, la réforme du secteur de la justice, la planification, et il pense que le gouvernement devrait faire la politique de ses moyens.
Oui, exact. La première impression que j'ai, c'est que il y a un grand fossé d'effondrement entre les décideurs et les personnes qui sont appelées à mettre en application les principes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous sentons dans l'esprit du discours du chef de l'État, c'est qu'il y a un souci des réformes de la justice.
quand nous suivons même l'interview de l'investiture ou des nominations de ces magistrats, nous avons vu ou entendu les présidents de la République dire que c'était des magistrats de la rupture. Mais nous avons, moi personnellement, j'ai comme l'impression que son discours ne trouve pas écho au niveau des personnes qui sont appelées à appliquer ce qu'il dit. Parce que je pense que les discours ou les déclarations du président de la République doivent autant être analysées par les personnes qui l'entourent que par nous qui sommes la population. C'est que quand le chef de l'État dit que ce sont des magistrats de la rupture et qu'on devra leur donner tous les moyens, il met les problèmes de moyens des magistrats, il met ça comme son premier souci, son souci primordial. Alors, il faudrait comprendre en ce moment que nous avons affaire à une déclaration du chef de l'État qui doit normalement se faire accompagner par des mesures. Et maintenant, les personnes qui sont appelées à exécuter ces mesures, peut-être, ne les exécutent pas comme ça, ça nous fait remarquer qu'il y a vraiment un grand procès d'effondrement entre les décisions ou les déclarations qui sont prises au niveau des décideurs qui, en cas de stress, et les chefs de l'État et les ministres de la Justice et même les procureurs généraux de la République et les personnes même qui sont appelées à dégager, à ressortir les fonds nécessaires pour que ces magistrats soient mis dans les conditions qui sont dans les préalables nécessaires pour qu'ils puissent exercer en tant que magistrat de la rupture. C'est la première impression que j'ai faite. La deuxième impression que nous avons à faire, c'est que déjà dans le discours même, dans ce même discours que moi j'avais suivi vraiment avec intérêt, j'ai senti une différence. Et quand le chef de l'État a dit que c'était des magistrats de la rupture et que les moyens, il leur promet de lui donner tous les moyens nécessaires pour exercer dans les meilleures conditions, j'ai remarqué des applaudissements de la part de ces magistrats. Mais le chef de l'État a fait suivre en disant que cela ne doit pas justifier les méconduits dans leur façon de dire le droit. Là, je n'ai pas entendu d'applaudissements dans les publics. Donc, c'est pour dire que, au fond, les magistrats veulent ces nouveaux promis ou nommés magistrats veulent des bonnes conditions, mais aussi on ne sent pas encore, peut-être dans leur chef, que ce sont vraiment des magistrats de la rupture. C'est la deuxième impression que moi j'ai fait.
Voilà, magistrat Edmond Issoufa, maître Bartoum Yambaka pense qu'il y a un fossé entre le décideur, le chef de l'État, et disons l'exécution, l'exécutant, le PGR, le ministre, et toute la suite. Ceci ne fait-il pas fait dire pratiquement à d'autres observateurs que c'est une question qui a été politisée?
Bon, je ne sais pas, procès sur 20, mais ce n'est pas de la part du procureur général de la République. Je pense que lorsqu'il faut parler de conditions sociales ou professionnelles des magistrats, ce n'est pas le premier président de la Cour suprême de justice, encore moins le procureur général de la République. La Constitution de la République dit que le pouvoir judiciaire doit avoir un budget propre. Lors des assises du Conseil supérieur de la magistrature de l'année passée, il avait été dressé un projet de budget et que les secrétariats permanents avaient transmis au gouvernement. Savez-vous que le gouvernement n'a jamais pris en compte ces budgets? Or, dans ces budgets, il avait été également prévu les recrutements de magistrats. À ce que je sache, à moins que je l'oublie, il était prévu les recrutements de 500 magistrats. Mais ce budget n'a jamais été pris en compte. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler des conditions sociales des magistrats, ou professionnel, la question doit être posée au gouvernement. Quels sont les moyens que le gouvernement a mis à la disposition du pouvoir judiciaire pour que les recrutements se fassent dans les meilleures conditions? Quelles sont les conditions que le gouvernement, quels sont les moyens que le gouvernement a mis à la disposition du pouvoir judiciaire pour que la formation de ces jeunes magistrats se fasse dans les meilleures conditions et que même leur accueil au niveau du pouvoir judiciaire se passe dans les meilleures conditions? J'ai suivi les magistrats, mais je crois qu'au niveau de la formation, il s'est posé un problème. On s'adresse aujourd'hui au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien, puisqu'en fait, c'est ça, c'est l'organe de gestion. Mais on doit aller au-delà. Est-ce que réellement on a donné au Conseil supérieur de la magistrature le temps de fonctionner correctement comme prévu dans les textes? Jusqu'aujourd'hui, pas du tout. Le projet du budget est là, on ne l'a pas pris en considération. Je crois que c'est une question de volonté. Est-ce que réellement, on veut d'un pouvoir judiciaire qui fonctionne dans les meilleures conditions? Est-ce qu'on veut réellement d'une bonne administration de la justice dans notre pays? C'est pourquoi, d'entrée de jeu, je n'ai pas voulu faire la distinction entre les nouveaux et les anciens magistrats. Puisque les conditions de travail des magistrats concernent tout le monde. Tout à l'heure, maître a parlé des applaudissements. Mais lorsque les magistrats applaudissent par rapport aux conditions, on se limite pas seulement à la rémunération. Savez-vous, depuis que moi je suis magistrat, je n'ai bénéficié d'aucun frais de fonctionnement.
Que vous travaillez comment?
Ah, c'est ça la question fondamentale. Et lui, maître est un avocat, il doit se poser la question de savoir comment est-ce que les magistrats travaillent, alors qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement.
Vous amenez votre rame de papier, vos stylos.
Donc, chaque magistrat doit se débrouiller. Il doit s'acheter qui rame de papier, des stylos, ainsi de suite, puisqu'il n'y a pas de frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on parle d'affectation. Mais ces magistrats-là qui seront affectés, comment est-ce qu'ils vont rejoindre le milieu d'affectation? C'est toujours une question de moyens. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'activiste des droits de l'homme lorsqu'il parle de planification. Nous devons savoir ce que nous voulons. Et donner aussi aux personnes habilitées à initier, bien sûr, puisque une fois que c'est un plateau, nous avons parlé des réformes. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que ces réformes se font sans les magistrats. Or, les magistrats, ce sont les premiers concernés. Quelle est la part du magistrat dans ces réformes? Donc, voilà en fait la question. Lorsque j'ai tout à l'heure dit que la situation était prévisible, c'est par rapport à ces conditions. Savez-vous que le Premier ministre, lors d'un point de presse, il a déclaré à la face du monde que les gagnants des magistrats touchaient 1 600 $ américains? Nous avons réagi. Nous avons adressé une pétition. Savez-vous, plusieurs mois après, elle est demeurée sans réponse. Bon, imaginez-vous que l'autorité du pays qui est appelée à gérer déclare que les magistrats touchent 1 600, alors que cela n'est pas vrai. Nous avons réagi, nous avons écrit, mais aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se pose la question de savoir réellement à qui on s'est ainsi que mon syndicat avait pris l'initiative de pouvoir saisir le procureur général de la République. Pour qu'on nous dise réellement, est-ce que l'argent sort dans les caisses de l'État pour que les gagnants du magistrat soient rémunérés, soient payés 1 600, alors qu'il est peut-être détourné quelque part? C'est ainsi que nous avons initié, nous avons saisi le procureur de la République pour qu'une information soit ouverte dans ce sens-là.
Dites-moi ce qui t'aigne, il y a cet auditeur Robert Bahomé, qui est avocat vos vous, qui se demande à quoi est réellement dû cet abandon des nouveaux magistrats? Est-ce au manque des moyens ou carrément à la mauvaise foi des décideurs? Peut-on réellement espérer encore une application correcte et efficace de la politique de tolérance zéro par ces magistrats une fois en fonction, n'est-ce pas, qui sont démoralisés dès le départ?
Je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui est à la base de cette situation. Le premier facteur d'abord, c'est le facteur politique, hein, à ce qui concerne la priorisation des besoins, la priorisation des interventions du gouvernement. Je pense que lorsqu'on analyse cette situation, on va constater que vraiment la question de la réforme de la justice et en particulier la question de recrutement et de l'amélioration des conditions de travail de magistrats n'est pas la priorité des priorités du gouvernement. Ça c'est clair à travers cette situation. Et ça relève du contexte politique. Deuxième problème qui peut paraître aussi fondamental, ce sont des problèmes techniques. Les problèmes techniques, ça veut dire quoi? C'est des problèmes de moyens. Le ministre peut avoir la bonne volonté du monde, le ministre de la Justice, mais ça dépend de toute une politique du gouvernement et aussi des moyens dont dispose le gouvernement et comment le gouvernement va les dispatcher. Une fois de plus, là, on constate que les moyens font défaut ou les moyens ne sont pas suffisamment affectés là où on doit les affecter. Donc ça, c'est aussi un problème technique à la fois de programmation, de planification, et de savoir affecter les moyens là où les priorités se dessinent. Enfin, il y a aussi un autre problème d'éthique. un problème d'éthique, c'est que le magistrat qui sont déjà dans ces conditions-là, les nouveaux magistrats, tout en sachant que les anciens, permettez que je dise comme ça, c'est pas pour faire une discrimination entre les deux, donc le magistrat il se trouve déjà dans cette situation morale, doublée de la situation matérielle, ne pourrait pas donner les résultats qu'on attend de lui. Je pense que c'est aussi une façon, par là, d'annuler tous les efforts qui ont été consentis par plusieurs partenaires au niveau national pour arriver à ces résultats déjà de la formation. Enfin, je dirais que le problème, on ne pourrait pas perdre d'espoir, même si la difficulté paraît grande, même si le défi aussi est grand, mais il faut continuer à interpeller le gouvernement. Et il faudrait que le gouvernement s'explique là-dessus. Le gouvernement dise vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Et ça, c'est la responsabilité première du gouvernement, et en particulier celle du ministre de la Justice, qui doit expliquer la situation qui se passe. Et puis, après avoir expliqué, il faut qu'on dégage le goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce que c'est le problème de moyens ou c'est le problème de ceci? Et comment on peut résoudre ça? La communication sur cette question du gouvernement est vraiment attendue et prioritaire. Il faudrait que le gouvernement dise les problèmes. Ce n'est pas dans le silence qu'on peut résoudre les problèmes. Et il faudrait que l'ensemble des citoyens sachent pourquoi ces magistrats aujourd'hui sont abandonnés et comment on peut résoudre les problèmes. Alors, la communication vraiment transparente pour eux permettre aussi même aux acteurs de la communauté internationale qui pensent qui veulent intervenir dans les domaines de la réforme, d'aider les gouvernements si les difficultés sont réelles et que si ce n'est pas de la mauvaise foi. Voilà un peu.
Je rappelle qu'il y a beaucoup de questions qui sont adressées à Jean Oboulou, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, mais que nous n'avons pas pu joindre pour qu'il participe à cette émission, mais pourtant, comme je l'ai plusieurs fois dit ici, il a donné son accord de principe. Maître Oswald Bafouniembaka, il y a cet internaute, Yves Loubouli, qui est à Kinshasa, qui dit il y a eu suffisamment de temps pour mûrir ce besoin personnel. Y a-t-il eu planification par rapport à ces recrutements? Dismas Kitenia en a parlé. Dès la formation, ils étaient abandonnés à eux-mêmes et voilà qu'ils ne sont pas affectés. Ces Congolais ont été appelés pour servir la nation et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Certains membres, qu'après, se poseront des problèmes de rejoindre leur lieu d'affectation, de logement, entre parenthèses, toutes les maisons de l'État étant vendues et peut-être même de mécanisation encore. Le magistrat Issoufa s'est demandé tout à l'heure si c'était une question de volonté.
Oui, je pense que le problème est de savoir, la question de l'intervenant c'est fondamental. Le problème c'est de savoir est-ce qu'on a recruté les magistrats parce qu'on voulait créer l'emploi. Ça c'est la question qui je viens d'apprendre de l'intervenant qui a réagi juste après moi que le budget était prévu pour 500 magistrats. Maintenant, on en a recruté 2000. On dit que pour un premier temps, on a nommé et formé 1000 magistrats. Et qu'est-ce qui fait que pour un budget qu'on a prévu pour 500 personnes, on a recruté 4 fois plus, bien qu'on nous dit qu'on en a quand même d'abord nommé pour un premier temps pour 1000 magistrats. Nous voyons que, apparemment, les choses se font avec une certaine légèreté et ça ne soutient pas, ça ne donne pas au peuple l'espoir d'envisager une nouvelle magistrature de la rupture. Et puis, il y a un autre effet qui se pose, c'est que les prémices déjà ont été faussées au départ. C'est que les critères même de recrutement de ces magistrats étaient faits sur quelle base. Quand nous avons appris les critères, d'abord il y avait la question des promotions, en fait, il n'y a que les magistrats, à moins que je me trompe, qui ont été licenciés en droit déjà à partir de 2010. Seulement jusqu'en 2008, pardon. Mais il y en a qui ont fini même en 2009 et qui sont par recommandation ou des tels ou tels qui se sont retrouvés magistrats et qui sont même qui ont été nommés. Il y en a qui attendent être affectés. Là aussi, on ne les dit pas encore, mais il y a une guerre. Chacun veut rester au côté où on pense qu'il y a où les choses se passent encore mieux. Est-ce que parmi les 1000 magistrats, il y a rarement ceux qui voudraient vraiment se retrouver dans des coins les plus reculés du pays. Tous sont en train de se battre maintenant pour être acceptés dans les meilleures juridictions. Donc, vous voyez que déjà, à ce niveau, il y a beaucoup de mécanismes de sécurité critiquables. Est-ce que nous voulons vraiment des magistrats de la retirer ou bien nous voulons nommer des magistrats parce qu'il faut donner l'emploi à des gens parce que l'emploi constitue aussi un des chantiers de la République. Et donc, voilà pourquoi je donne raison à cet intervenant en disant tout de suite que peut-être que les choses devraient être pensées autrement. Et là où je dois aussi rectifier, c'est qu'il ne revenait pas quand nous parlions de fossés qui existent entre les décideurs et les personnes qui sont chargées de mettre en application. Nous savons exactement que ce n'est pas au procureur général ou au ministre de la justice de faire. Les budgets que l'on a prévus pour ces magistrats et les combien a-t-on fait des études comptables et financées pour savoir quels sont les états des besoins de ces magistrats pour qu'ils soient vraiment des magistrats de la rupture comme on les appelle. Moi je pense que le débat est encore sous la table, il faudra en débattre.
Edmond Issoufa, je rappelle que vous êtes le vice-président du syndicat autonome des magistrats du Congo, mais a bien observé le cheminement de ces nouveaux magistrats. On a l'impression qu'à chaque niveau, à chaque étape, il fallait des pressions pour qu'une situation se débloque, après on tombe dans une autre, encore des pressions. Bismas Kitenga un moment a évoqué, a dit que le gouvernement devrait plutôt penser à faire la politique de ses moyens.
Oui, mais je crois que il a raison, mais il y a un besoin de magistrats. Ça c'est vraiment important, puisque si nous voulons réellement un état du droit, nous devons mettre les moyens. Puisque le développement ou la reconstruction passe par une bonne administration de la justice. Tant que nous n'aurons pas une justice qui fonctionne correctement, il est difficile de parler de la reconstruction. Il est difficile de parler du développement. C'est ainsi que nous estimons que, puisque nous avons opté pour un état de droit, nous devons mettre les moyens. Là, rien à faire. Mais lorsque je parle de volonté, j'ai l'impression effectivement qu'il se pose un problème de volonté politique. On veut bien recruter les magistrats, comme vous l'avez dit, mais à chaque étape, il y a des problèmes. Et tout au long de la carrière du magistrat, il y a toujours des problèmes. En ce qui concerne les conditions, le travail, comme je l'ai dit, le contrôle du travail. Donc, je crois que c'est pourquoi lorsque nous parlons de nouveaux, anciens, moi je veux qu'on parle tout simplement du magistrat. Puisque là, ils sont déjà magistrats. Le problème, c'est que depuis la publication des résultats, jusqu'à la nomination, il s'est posé un problème de statut de ces jeunes magistrats. De sorte qu'ils se sont considérés comme magistrats et on les a considérés comme tels dans la pratique depuis la publication des résultats. Lorsqu'on leur a demandé qu'ils aient quitté son village, d'aient quitté sa collectivité, de rejoindre les grands centres pour pouvoir suivre une formation, il s'est posé déjà un problème de statut jusqu'à la nomination. Il aurait fallu que cela soit défini dès le départ. Cela ne s'est pas fait. Sauf que, si nous prenons les choses, on a l'impression que les choses règnent. Donc, le problème de la planification est important. On doit savoir ce qu'on veut, préparer cela correctement pour aboutir à des résultats qui soient meilleurs. Puisque, vous savez, en fait, l'impression que moi j'ai, c'est qu'on ne veut pas d'une bonne administration de la justice. Je vous ai parlé des conditions. Autre. C'est là, nous sommes aujourd'hui peut-être la seule profession dans notre pays où on prend les arrivées des salaires des magistrats et on les verse dans la dette publique de l'État. Savez-vous que nous avons les arrivées des salaires depuis 2006. On n'a pas payé, on a préféré verser ça à l'OGDEP. Mais les salaires ont un caractère alimentaire.
Voilà, Dispas Kipengé, vous êtes président, vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme FIDH et président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme. Vous êtes également analyste. À l'état où nous sommes, que faut-il ou quels conseils pouvez-vous nous quelques observations, propositions à l'intention du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir décanter cette situation?
Je pense que il y a des conseils, des recommandations que je dois formuler à l'intention du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi du gouvernement. Concernant le conseil, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, je dois dire qu'il faut qu'il entre d'abord en contact avec le gouvernement pour savoir ce qui ne marche pas, quel est le problème. Deuxièmement, il doit communiquer, il doit prendre le desiderata de magistrat pour pouvoir aussi le présenter à qui de droit. Troisièmement, moi je pense que ce qui est aussi très important, c'est de présenter la situation telle qu'elle se présente pour le magistrat qui sont en attente, qui sont en train de réclamer. Quatrièmement, ce que moi je pense, c'est aussi de dire aux magistrats, aux jeunes magistrats, que la situation est très difficile, qu'elle ne dépend pas du secrétariat permanent, que la situation, leurs revendications trouveront que des solutions auprès du gouvernement, qui a le moyen, qui gère la République et qui gère le secteur de la justice, et qui doit donner le moyen, qui doit résoudre le problème. Moi, je pense que c'est une communication qui doit être transparente, qui ne doit pas être politique, puisque le Conseil étant un organe technique. Moi, je pense qu'il faudrait que le secrétariat du Conseil communique, parle bien avec le magistrat, dise tout ce qu'il peut faire et fasse le lien entre la corporation et le gouvernement qui a la décision. Moi, je pense qu'il faut travailler de cette manière-là. Ça, c'est à ce qui concerne le secrétariat. À ce qui concerne le gouvernement, je venais de le dire, il faut vraiment pas que le gouvernement se caractérise par une politique de silence. Ça ne résout pas le problème. Il faut que le gouvernement communique, dise le problème, dise ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et présente les difficultés. Et de cette manière-là, il peut trouver également même des appuis extérieurs. Moi, je pense qu'il faut assumer une politique, même si elle a connu des difficultés, mais il y a eu aussi des avantages. Donc moi, je voudrais dire que la situation n'est pas totalement désespérée, quand bien même elle a été menée avec une certaine ambition, mais aussi avec certaines difficultés, avec certaines erreurs d'approche, avec certaines insuffisances de planification. Mais je pense qu'il y a moyen avec la volonté, il y a moyen aussi avec une bonne approche de communication, il y a moyen aussi avec une approche de mobilisation pour que le gouvernement puisse corriger et puisse aller de l'avant. Et je pense qu'il y a là la nécessité de combiner les efforts de tout le monde.
Merci.
C'est-à-dire faire une sorte d'un dialogue ouvert à tous les acteurs de la justice pour avancer.
Maître Oswald Bakunyambaka, vous êtes chercheur en droit international pénal et analyste également. Quelles sont vos recommandations à vous pour que cette situation soit décantée?
Oui, je commence d'abord par dire que les prémices ont été faussées au départ. Alors, il ne faudrait pas, il serait vraiment trop nous demander, nous autres peuples, à attendre une magistrature de rupture comme cela est proclamé par-ci et par-là. Mais ces erreurs, je pense que nous pouvons, moi je les attribue au fait que le président de la République, on n'a pas permis de faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Malheureusement, dans notre pays, nous avons pris la mauvaise habitude politiser tout, c'est que même les questions les plus fondamentales qui intéressent la nation, mais moi je mets tous ces égarements justement au fait que le président de la République n'est pas fait partie de ce Conseil supérieur de la magistrature. Si le président de la République était parti présider ce Conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'il y aurait un maximum ou un grand degré de collaboration entre les décideurs qui sont membres perpétuels du gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature et même le Conseil permanent. il y aurait eu une politique de collaboration pour recruter les magistrats et leur encadrement. Mais comme les commissions ont été fauchées dès le départ, moi je reste vraiment très pessimiste en ce qui concerne la suite. Les magistrats anciens et nouveaux seront les mêmes et je pense que tant que les problèmes de fond ne seront pas traités, rien ne pourra changer.
Edmond Issofa, vos recommandations à vous par rapport à ce que vous venez d'entendre des Bismas Kitenge de Maître Sfa de Bakinimbal.
D'abord, la présence, les problèmes liés à la présence du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature, c'est un faux problème. Parce que le président de la République dépasse cette prérogative, il a pratiquement un contrôle sur les institutions de la République par son arbitrage. Je crois que ça, c'est un faux problème. Mais le véritable problème, c'est le moyen.
Et un autre débat, d'ailleurs.
Oui, c'est un problème, un autre débat. Et le véritable problème, c'est qu'il faut donner au pouvoir judiciaire des moyens. Laisser les conseils supérieurs de la magistrature fonctionner normalement. Parce que l'impression que nous avons, les politiques, empêchent les conseils supérieurs de la magistrature de fonctionner comme les textes le prévoient, pour qu'après on dise, non, voilà, les magistrats soient incapables de se gérer. Donc, je pense qu'on doit donner les moyens au pouvoir judiciaire, des deux. Et lorsqu'on parle de la communication, effectivement, le bureau du conseil supérieur de la magistrature doit communiquer. Parce que des fois, c'est silence, parce qu'on parle du secrétariat permanent. Mais le secrétariat permanent, en fait, ce n'est qu'un organe technique qui est dirigé par un bureau. Donc, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature doit communiquer. Donner la position, puisque aujourd'hui, on semble tout rejeter sur le dos du Conseil supérieur de la magistrature, du secrétariat permanent, alors qu'on sait qu'ils n'ont pas les moyens de la politique, ils n'ont même pas des frais de fonctionnement. Imaginez-vous, cet organe technique n'a pas de moyens de faire des fonctionnements et de surcroît les pouvoirs judiciaires. Donc je crois que c'est un faux problème. Le problème aujourd'hui, c'est que qu'on laisse, les choses ont été, comme on l'a dit, décriées dès le départ, mais qu'on laisse au moins le Conseil supérieur de la magistrature à travers son secrétaire permanent reprendre les choses en main, voir ce qu'il y a à corriger. Donc je crois que sans moyens, il n'y a rien qui ne se fera.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, prenons Christophe de Boutembonor, qui vous, aussi longtemps que l'administration publique congolaise ne sera pas apolitique, la justice congolaise ne se relèvera jamais. Hilaire Aguenonga de Bouni en province orientale, les cris de détresse de ces jeunes magistrats risquent de détourner leurs intentions et compromettre les conseils reçus par le chef de l'État. Jean-Pierre Pamboué de Lubumbashi au Katanga, que ces magistrats ne regrettent pas, le début annonce déjà la fin, quand ils vont tomber dans la corruption, comme certains de leurs prédécesseurs, nous n'allons pas les condamner car nous savons que les gros poissons préparent déjà leur terrain en ne leur donnant pas les moyens nécessaires de bien travailler pour qu'ils soient plus tard dans leur poste. L'histoire les usera. Arnold Ombeni, Mwongo de Bukavu Sud Kivu, le comportement irréprochable est-il seulement attendu de nouveaux magistrats qui ne sont pas encore en fonction? Les anciens ne sont-ils pas concernés par ce comportement? Car ce que montrent certains magistrats d'Ouvira ne mérite pas d'être appelés justice. Les nouveaux, une fois affectés, risquent aussi d'être contaminés. Bikugi Dunia Boss, en principe, pour que les magistrats congolais remplissent leur mission de dire le droit, sans que tribale ni politique, il leur faut une vie comme celle de la plupart des magistrats d'Afrique. Je voudrais alors connaître les garanties que le gouvernement a mises en place pour que ces nouvelles recrues ne tombent pas dans les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Bismas Kitenge, juste une brève réaction par rapport à ce que disent ses auditeurs et aussi à votre conclusion.
Je pense qu'il y a certains problèmes qu'il faut privilégier, c'est que il y a une politique qui doit être bien définie, bien rationalisée, bien programmée, bien planifiée de la part du gouvernement lorsqu'il entame une question importante qui est celle de la réforme du secteur de la justice à travers le magistrat. Ce qui n'a pas été fait, mais je dis que c'est pas désespérant, en plus il fait toujours se corriger. Deuxièmement, c'est un problème aussi technique, un problème de moyens. Mais le moyen, il faut l'entendre au sens global, c'est-à-dire le moyen financier, le moyen humain. Et troisièmement, c'est un problème de transparence.
Merci.
Transparence dans tout ce qu'on fait, et je crois que le gouvernement pourrait faire communication et transparence.
Merci. Maître Sfal de Barkinyembaka, de votre mot de conclusion.
Le mot de conclusion, c'est que, je l'ai redit, les prémices ont été faussées au départ. Nous restons vraiment... Et finir sur ce qui concerne
les attentes que nous et les espoirs que nous avions en ce nouveau magistrat.
Merci.
Il faut aussi dire que la magistrature n'est pas aussi noire qu'on la présente aujourd'hui.
Merci.
Les choses peuvent toujours améliorer.
Merci Edmond, il faut faire un mot aussi pour conclure.
Oui, merci. En fait, un des auditeurs vous a parlé des conditions des autres magistrats. Savez-vous que dans certains pays limitrophes, ceux qui touchent un magistrat les moins gradés, plus que ceux qui touchent un président de la Cour suprême de justice. Donc, c'est à vous d'en tirer les conclusions.
Merci beaucoup. Merci à Maître Osvald de Barkunimbaka que nous avons pris à pied levé et qui a accepté de participer à cette émission. Merci à Edmond Issofa, d'Ismaël Kipenge. Nous regrettons de ne pas avoir eu Jean Oboulou, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, qui avait donné son accord de principe. Merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Capi. Thank you.